BFM Radio.
h 25 sur BFM TV, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. La suite d'affaires suivantes. Depuis le 8 juillet 2023, la disparition du petit Émile dans le village du Haut-Vernay reste un mystère total. Mais l'enquête pourrait bien connaître un rebondissement ces tout prochains jours. Les juges ont en effet décidé de procéder la semaine prochaine à une mise en situation. C'est le terme officiel, autrement dit une reconstitution de ce samedi après-midi où tout a basculé. Les protagonistes de l'époque seront tous sur place et leur version confrontés au terrain, un exercice qui peut s'avérer décisif, tout particulièrement au moment où des questions sur la personnalité du grand-père ont refait surface. Elisa Tran.
Les grands-parents d'Émile, les oncles et tantes, toutes les personnes présentes dans le hameau au moment de la disparition du petit garçon sont convoquées pour reconstituer avec le plus de précision possible cette journée du 8 juillet 2023. Les juges d'instruction vont chercher à vérifier si les témoignages des uns et des autres sont réalistes, cohérents, comme celui de ses voisins qui disent avoir aperçu Émile dans la ruelle principale du Haut-Vernay vers 17h15, à une vingtaine de mètres de la maison familiale.
On a deux témoignages contraires. Il y en a un qui aurait vu Émile descendre vers le cœur du village et l'autre monter vers là où les enfants ont leur cabane et là où c'est en fait le plus dangereux, c'est là où c'est à flanc de coteau, il y a vraiment une falaise.
Les chiens renifleurs, eux, perdent la trace d'Émile près du lavoir. Malgré les fouilles, pas de traces, pas de corps. Comment Émile a-t-il pu se volatiliser dans un périmètre si étroit ? À ce moment-là, il était sous la surveillance de son grand-père. Comme chaque membre de la famille, les antécédents judiciaires du patriarche ont été passés au crible. Selon les révélations du Canard enchaîné cette semaine, celui-ci a le statut de témoin assisté dans une affaire de violence sur des enfants dans une communauté religieuse éducative du Pas-de-Calais où il a vécu dans les années 90. Frère Philippe avait alors la réputation d'un homme rigide, aux méthodes parfois brutales.
C'est une affaire distincte, ça ne veut pas dire qu'on le soupçonne dans l'affaire Émile, mais forcément, dans la disparition d'un enfant, quand on sait que quelqu'un est capable de lever la main sur des enfants, c'est une information qu'on prend en compte, ça ne fait pas l'enquête pour autant.
8 mois après la disparition d'Émile, les gendarmes n'excluent pas de refouiller la zone. Une vingtaine d'enquêteurs travaillent par ailleurs sur les données téléphoniques et le matériel informatique saisi.
Et avec nous, sur le plateau d'affaires suivantes, le général François Daoust, bonjour. Merci d'être avec nous, ancien directeur de l'Institut de recherche criminelle de la Gendarmerie nationale. Vous êtes professeur de sciences criminelles à l'Université de Cergy-Pontoise. Boris Karlamov, bonjour. Journaliste police-justice BFM TV, vous suivez le dossier du petit Émile depuis le tout début, donc on va reprendre évidemment tout cela avec vous. Et puis Ixchel Delaporte est également avec nous. Bonjour, soyez la bienvenue. Vous êtes journaliste indépendante. Vous êtes autrice de cet ouvrage, Les enfants martyrs de Riaumont, enquête sur un pensionnat intégriste aux éditions du Rouergue. On va en parler parce que cette semaine, vous avez révélé que le grand-père du petit Émile avait fait partie de ce pensionnat et c'est évidemment un éclairage en plus dans cette affaire. Commençons par cette mise en situation. Alors, il faut bien expliquer, on ne dit pas reconstitution, le terme exact, c'est mise en situation. Bon, c'est un peu pareil. Mais le terme, c'est mise en situation. Mais c'est pas pareil. Moi, je simplifie, mais vous allez préciser les choses. En quoi ça consiste exactement ?
Alors, l'objectif pour les magistrats instructeurs ainsi que les enquêteurs, c'est refaire ce déroulé de la journée du 8 juillet aux alentours de 17h15 où Émile a donc disparu devant le domicile de ses grands-parents au Haut-Vernay, rejouer ce jour-là et puis pour trouver aussi peut-être des incohérences entre les déclarations des témoins oculaires en audition et la configuration des lieux. Donc, ils espèrent, ces enquêteurs, eh bien qu'il y a un indice qui se dégage cette journée. On sait que ça va se dérouler jeudi prochain. Jusqu'à la dernière minute, cette mise en situation, elle peut être annulée puisqu'il y a des facteurs climatiques entre guillemets qui vont entrer en jeu. Ça devrait durer toute la journée. Il y aura les habitants du Haut-Vernay qui étaient présents au moment de la disparition, les touristes, certains touristes du Mans qui étaient présents au moment de la disparition et puis surtout le grand-père d'Émile, puisqu'il est la dernière personne à l'avoir vu. Il y a deux témoins oculaires à notre connaissance, mais deux témoignages qui, on le sait, divergent. L'un voit Émile remonter et l'autre voit Émile redescendre
dans la rue. On va reprendre tout ça dans le détail. Il y a plein de choses dans ce que vous nous dites passionnantes. Général, je m'appuie sur ce que vient de dire Boris. Ça veut dire qu'on reprend tous les procès-verbaux qui ont eu lieu, toutes les auditions qui ont eu lieu, toutes les déclarations qui ont eu lieu, qu'on met les gens. Vous nous avez dit, vous êtes là. Est-ce que c'est faisable ou pas ?
C'est tout à fait ça. Là, c'est cette mise en situation. En fait, vous parliez tout à l'heure, mise en situation, reconstitution ou autre. Dans le code de procédure pénale, il n'y a qu'une seule chose, c'est l'article 92 qui dit « Le juge d'instruction accompagné de son greffier peut se transporter sur les lieux et faire toute opération qu'il jugera utile ». Donc là, en l'espèce, il souhaite au pluriel, eh bien, une mise en situation. Et c'est intéressant que ça soit au pluriel, parce que ça évite l'effet tunnel qui est « j'ai une idée et je vais rester sur une seule hypothèse » et on a des regards croisés pour cette mise en situation.
Une fois qu'on a la mise en situation, qu'on sait que chacun était là, en fait, on prend le plan du village et on met des pions.
Voilà,
on met les... Le pion est ici, oui, machin est là,
tout à fait.
Voilà. Après... On fait quoi ? On compare à quoi ?
Alors, on compare aux premières déclarations qui avaient eu lieu lors des secours, qui n'étaient pas encore la phase judiciaire. Puis on reprend les témoignages, puisqu'ils ont été réentendus dans le cadre de l'affaire judiciaire, et on voit où est-ce qu'ils étaient, et on va leur demander de se mettre là où ils étaient quand ils affirment « j'étais là, j'ai vu, mon téléphone était à tel endroit ».
La téléphonie, les heures.
La téléphonie, les heures, la position et la visualisation qu'ils pouvaient avoir les uns sur les autres par rapport à la topographie des lieux.
Si un tel dit « voilà, j'étais là, j'ai vu machin », enfin pardon, pour les j'ai vu X à tel endroit, on va lui dire « c'est pas possible parce que là à l'endroit où vous êtes, là, maintenant, vous nous dites que vous étiez là. Il y a le mur de la maison qui vous empêche de voir, donc vous nous racontez...
Tout à fait. Vous êtes trompé, ou vous avez un souvenir qui s'est recréé, ou vous avez affabulé, ou vous êtes trompé de jour. Ce qui peut arriver face à un événement, il peut y avoir une temporalité décalée. On a vu le petit la veille, et on a retransposé le jour d'après, en se disant, mais si, ça doit être ce jour-là que je l'ai vu. Bon, tout ça, c'est ce qui va être vérifié par les juges d'instruction, il y aura aussi les enquêteurs, il y aura tout le monde, et tout va être replacé. Et la façon dont ça se déroule, il y a deux façons possibles pour les juges. C'est soit chronologique, et on joue tout, mais ça va être assez haché, parce qu'il y a quelqu'un qui va dire « mais non, moi je le vois pas comme ça, c'était pas comme ça », ou on va jouer, c'est pour ça que c'est très long, chaque version, c'est-à-dire que... En fonction, le témoin va dire « moi j'étais là », etc. Et on redéroule selon la version du témoin numéro 1, et on recommence avec la version du témoin numéro 2, avec la version du grand-père, et là on va voir tout en plus d'autres mises en cohérence ou en incohérence. Voilà comment ça se passe.
Il y a trois moments, trois versions, en tout cas trois étapes clés. Vous m'en direz s'il y en a plus. Il y a la version du grand-père et de la grand-mère qui disent « voilà ». Émile était chez nous, il était sous haute surveillance, il nous échappe. Ça, c'est une scène absolument cruciale. Puis il y a les deux témoignages aussi qu'il va falloir confronter au réel. C'est trois moments absolument clés dans la disparition d'Émile.
Oui, avec deux témoins. Donc le premier témoin, qui est un adolescent, dit que Émile était en train de descendre la rue devant le domicile de ses grands-parents en direction de ce fameux lavoir. On rappelle que c'est au lavoir que le chien Saint-Hubert a marqué la trace d'Émile pour la toute dernière fois avant qu'il se volatilise entre guillemets. Et puis il y a un second témoin. Là, c'est une personne à la retraite qui dit qu'Émile remontait vers l'espèce de petite colline qui se situe au-dessus du domicile des grands-parents. Il y a une cabane qu'Émile avait construite avec ses cousins et toute sa famille, puisqu'on le rappelle, c'est une immense famille, il y a énormément d'enfants. La maman d'Émile est l'aînée de 10 enfants. Et donc voilà, deux témoignages qui sont assez contradictoires. On ne sait pas, peut-être que depuis, il y a un nouveau témoin qui a fait surface, entre guillemets, mais ça n'a pas été porté à notre connaissance. Donc là aussi, ça va être intéressant de savoir vraiment quels témoins sont présents jeudi.
Rappelez-nous la version des grands-parents.
Alors, la version des grands-parents, c'est Émile, il a fait une longue sieste ce samedi 8 juillet. Il se réveille aux alentours de 17h. Le grand-père d'Émile est en train de charger sa voiture, puisqu'en fait, il veut installer une clôture pour ses chevaux. Donc, il a le coffre ouvert de la voiture. Émile est dehors. Le grand-père retourne dans la maison. Il se retourne. Émile a disparu. Il s'est passé un laps de temps vraiment très court. Un quart d'heure, même pas 10 minutes. Les grands-parents d'Émile vont le rechercher pendant une demi-heure, 40 minutes. Ils vont attendre 40 minutes avant de prévenir les secours. Et là, tout de suite, c'est un énorme dispositif qui va se mettre en place. Donc, avec s'est battu, on a pu les suivre sur BFM TV notamment.
Juste dans le village, on saura où étaient les uns les autres, ce qu'ont vu les uns les autres, si ça correspond à la réalité, est-ce qu'ils avaient la possibilité de voir ça ou ça. Mais on est obligé aussi de se transporter à l'intérieur des maisons, parce que quand on dit voilà, les deux témoins ont vu Émile passer, un vers le cabane, l'autre vers le lavoir. Il faut aussi savoir ce qui se passe dans la maison des grands-parents à ce moment-là. Puis peut-être aussi dans la maison du voisin qui dit moi par la fenêtre j'ai vu quelque chose. Donc, alors comment on fait? On fait d'abord le village, puis ensuite on se transporte dans chaque maison. On va aller chez les grands-parents d'Émile. On va dire voilà qui était à table, qui était là, qui est allé chercher Émile. Quand le grand-père a pris Émile, au moment où il s'est réveillé, où étaient les autres? Vous étiez là? Vous étiez... On refait tout ensuite, oui. Maison par maison?
Alors, tout doit être refait. Après, ce sont les juges qui vont décider est-ce qu'ils rejouent tout ou partie. Mm-hmm. Là-dessus, c'est quelle est l'opportunité et quels sont les points sur lesquels ils ont besoin d'être éclairés. S'ils veulent tout jouer, tout sera joué. Et c'est en ça que les reconstitutions durent très longtemps, parce que justement, on fait, on part du début, qui était où et à quel endroit. Donc, chacun va reprendre sa place et on va essayer de voir toutes les incohérences qu'il peut y avoir ou au contraire, la linéarité de l'action.
Et on se demandait tout à l'heure avec Philippe, quand vous aurez tout ça, est-ce que c'est un homme, des hommes qui vont comparer, ça colle pas, ou est-ce que c'est une machine, un logiciel?
Les deux.
Mon général,
là-dessus. Et vous connaissez, Dominique, c'est quand on travaille avec Anacrim, eh bien, c'est à la fois les hommes qui ont collecté tous les témoignages, qui ont collecté tous les indices matériels, tous les faits, toute la temporalité, qui vont rentrer ça dans le logiciel, qui va faire une grande frise et les mettre en cohérence. Et s'il y en a un qui est décalé, ou dans le temps, ou indiciellement, eh bien, ça va ressortir.
C'est dire que ce moment va être absolument crucial. Cette mise en situation va intervenir aussi à un moment où on a appris des choses cette semaine, grâce à vous, sur le passé du grand-père d'Émile. Alors, il faut d'abord être très précis. Ce qu'on va dire là n'accuse absolument pas le grand-père d'Émile dans cette histoire. Ce sont des affaires totalement disjointes. Et vous prenez d'ailleurs soin de bien le rappeler à chaque fois, et c'est important. Vous avez enquêté sur un pensionnat catholique, intégriste, dans lequel travaillait le grand-père d'Émile. Et il est apparu qu'il était cité comme témoin assisté dans une affaire qui a été dénoncée par des anciens pensionnaires qui parlent de violence et de viol. Parlez-nous de ce pensionnat de Riaumont. Qu'est-ce qui s'y passait à l'intérieur?
C'est un pensionnat intégriste, catholique, traditionnaliste, dans lequel des familles de cette même obédience plaçaient leurs enfants. C'était un lieu où les enfants devaient apprendre, donc c'était le niveau collège, et ils avaient des cours par correspondance, les cours Atmer, et puis il y avait des laïcs et des prêtres qui encadraient et qui faisaient fonction un peu d'éducateurs dans cette école privée hors contrat qui est située à Liévin, tout en haut d'une petite colline entourée de bois et qui est aux allures médiévales en fait.
Quel était le rôle du grand-père d'Émile dans ce pensionnat?
Eh bien, lui, il est arrivé d'abord comme chef scout, mais avec l'idée de devenir prêtre. Donc, il est devenu assez rapidement frère. Il savait qu'il s'agissait d'encadrer des garçons, c'est que des garçons, dans ce pensionnat. Et puis, voilà, donc lui, son travail, c'était d'encadrer et il vivait sur place, en fait. Après, il allait faire quelques apprentissages religieux à l'abbaye de Fongombo de temps en temps, mais sinon, en règle générale, il était là H24.
Il est donc témoin assisté dans cette affaire qui remonte aux années 90, je parle sous votre contrôle.
Oui, c'est ça.
C'est quoi cette affaire?
Lui, il est témoin assisté dans une affaire où un ancien pensionnaire le vise pour des faits de viol et de violence sexuelle.
Très concrètement, c'était quoi, des coups?
Non, là, je vous parle que de viol et de violence sexuelle. Il est cité dans une affaire. Ce qui se passe, c'est que suite à cette plainte, oui, en fait, qui a été déposée en 2013, les enquêteurs ont commencé à s'intéresser à ce lieu-là. Oui. Et en fait, ils ont déclenché au fur et à mesure une vague d'auditions, si vous voulez. Donc ça s'étale quand même sur plusieurs années, cette affaire. Où, du coup, à force d'auditionner des anciens, les anciens ont commencé à citer des noms d'encadrants en disant qu'ils se comportaient de manière très violente, en fait, et que c'était des coups, des brimades, des humiliations, et que le pensionnat avait vraiment une réputation très négative, qu'ils mangeaient des choses avariées, qu'il leur donnait des punitions qui étaient tout à fait disproportionnées, enfin, que c'était un régime militariste, très viriliste, très dur, quoi. Et donc c'est là que, si vous voulez, on a aussi cette information supplémentaire selon laquelle le grand-père d'Émile avait des pratiques extrêmement violentes.
Michel, il était condamné pour ça ?
Non.
Ou juste entendu ?
Il a été entendu.
Il s'en défend ?
Bien sûr.
Qu'est-ce qu'il dit ?
Bah, lui, il dit qu'il a donné des petits coups par-ci, par-là, que c'était pas méchant. Et c'est d'ailleurs la défense globale hein, des moines de Riaumont, de dire une petite claque, ça a jamais fait de mal à personne.
Un coup de pied aux fesses.
C'est à l'ancienne, comme j'ai entendu des personnes dans les médias dire « mais c'était l'époque d'avant ». Mais en fait, c'est pas vrai. En fait, ce pensionnat, il a été ouvert en 1960. Il a été fermé en 2019. Le rectorat de Lille a enlevé l'agrément pour cette école privée hors contrat. Et les méthodes, elles ont toujours été les mêmes. Il y a un continuum de violence, en fait. On faisait comme ça avant. C'est que, en fait, dans l'époque, il y avait le grand-père d'Émile, les enfants portaient des culottes courtes en cuir, hiver comme été. Ils étaient maltraités. Et en fait, c'est une histoire d'héritage de la violence. C'est comme ça qu'on fait là-bas. C'est une manière d'éduquer les enfants.
Il y a un vrai sujet sur ce pensionnat. C'est ce qu'on retrouve dans votre livre. Passionnant. Oui. S'y retrouve donc mêlé le grand-père d'Émile. Encore une fois, on dissocie bien les deux affaires. L'un ne veut pas dire qu'il est responsable de quoi que ce soit. Ce qu'on peut juste dire, c'est que dans le village, on le dit que c'est un grand-père qui a un tempérament dur.
Oui, c'est ça, on le dit. Et depuis le départ, on n'a pas attendu que ces révélations soient faites concernant le passé trouble, entre guillemets, du grand-père. J'ai pu m'entretenir avec un habitant, on va dire, historique du Vernet, mercredi dernier, qui me disait, en parlant de Philippe le grand-père, il est très autoritaire, c'est de notoriété publique, il peut parfois avoir la main lourde. Il précise ses propos en expliquant, ses enfants ont peur de lui, mais bon, de là à dire qu'il aurait pu jouer un rôle dans la disparition de son petit-fils, eh bien, et là, il marque un silence. Donc voilà, il fait quand même la différence entre la disparition d'Émile ainsi que cette affaire dans cette institution catholique aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'il y a des soupçons qui pèsent quand même sur cette famille. On le rappelle, aucun membre de la famille n'a été placé en garde à vue et aucun membre de la famille n'a été mis en cause pour l'instant.
On rappelle qu'on disjoint bien ces deux affaires, mais c'était intéressant d'avoir les deux. Merci beaucoup d'être venu sur le plateau d'Affaires Suivantes et on suivra donc jeudi cette mise en situation. On ne manquera pas de la décrypter probablement dimanche prochain dans Affaires Suivantes. Merci beaucoup à vous tous d'être venus sur le plateau.